voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Jean Starobinski, récemment disparu. Le théoricien de la littérature s'entretenait en 1999 avec Gérard Massé. Ce soir, le corps du texte.
Jean Starobinski, nous l'avons dit hier, nous sommes à Genève chez vous et c'est juste en face l'université. Comme vous y avez travaillé longtemps et que vous y allez toujours, vous n'avez en quelque sorte que deux pas à faire, c'est-à-dire que votre promenade quotidienne est plus brève que celle de Kant. Mais vous êtes un homme de parole, je ne fais pas allusion là évidemment à votre moralité, mais au fait que vous avez donné des cours, que vous avez prononcé des conférences, mais vous avez aussi écrit des livres. Et je me demande comment tout cela s'est articulé pour vous. C'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'une conférence prononcée ou un cours donné sur un sujet, on n'ait plus l'énergie pour écrire. Ou qu'au contraire, quand on a écrit un livre, ce ne soit plus une matière pour un cours ou une conférence. Or, vous faites la différence, parce que je me souviens très bien être allé vous entendre comme auditeur au Centre culturel suisse où vous donniez un jour une conférence. Et j'y suis allé parce que on m'avait dit que vous aviez un art très particulier et consommé de la conférence. Et je l'ai éprouvé, je me souviens naturellement du contenu de vos propos, mais je me souviens surtout du fait que vous réussissiez un équilibre quasi parfait entre la préparation et l'improvisation. Au lieu que, trop souvent aujourd'hui, on entend des gens qui improvisent totalement et qui se perdent dans leur propre méandre, alors ils sont difficiles à suivre, ou alors des gens qui lisent un papier à une tribune, et c'est soporifique. Alors, comment ça se passe pour vous, cette articulation entre le devoir de parole et puis l'écriture des livres ?
La vie universitaire m'a évidemment encadré dans mes activités et les choses se sont passées pour moi comme elles s'annoncent dans un programme d'université. On choisit le thème de sa recherche ou de son cours avant de savoir parfaitement bien à quoi ce cours et cette recherche va aboutir. En tout cas pour moi, il n'était pas question de reproduire quelque chose que j'avais déjà accompli. Oui. Il s'agissait d'entraîner des étudiants dans une enquête, dans une recherche.
Vous cherchiez en même temps que vous faisiez le cours.
Exactement, oui. C'était bien cela. Il fallait que le cours fût pour moi une découverte que je communiquais aux étudiants. Et bien entendu, j'avais une longueur ou plusieurs longueurs d'avance sur l'enseignement que je donnais. Mes préparations dépassaient de loin ce que j'allais présenter dans la leçon. Mais la leçon elle-même n'était jamais qu'une étape, un atelier préparatoire pour quelque chose qu'au bout du compte, j'ai toujours considéré comme... un livre, quelque chose qui se déposera sur le papier un jour. Donc, c'est la préparation.
Et quand intervient l'écriture du livre, alors ?
C'est pendant les vacances ? Beaucoup plus tard. Les vacances permettent de faire quelque chose, mais pas tout. Beaucoup de projets courent parallèlement. J'ai reçu hier, et pas du tout en prévision de notre entretien, une liste de cours qui se trouvent enregistrés et conservés à l'Université de Genève. Je découvre soudain un titre, La conscience du corps, Valérie Supervielle-Michaud. Eh bien, c'est un de mes projets actuels, reprendre un certain nombre de textes littéraires dans la perspective de la perception du corps par lui-même, de ce qu'on appelle la synesthésie. Quelques articles ont paru, mais le livre n'est toujours pas fait. Monsieur Test face à la douleur, Michaud face aux métamorphoses de son propre corps, Supervielle et les extrasystoles qu'il note, le cœur qui bat irrégulièrement, toute cette richesse des perceptions corporelles que des poètes, depuis assez longtemps, ont su écouter et transmettre, me paraît d'un très grand intérêt. Nous vivons une époque de glorification du corps, mais je me rends compte que l'expression de la sensibilité interne à son propre corps, eh bien, c'est quelque chose qui se dit quelquefois très pauvrement. Il y a une mise à plat du corps, et quelquefois la pornographie ne fait qu'exagérer la, oui, la mise à plat du corps, et ce qui manque, c'est la perception du dedans, du profond, de l'inattendu, de la vie corporelle, et c'est là un thème, encore une fois, mitoyen entre médecine et littérature.
Oui, et puisque vous parlez de médecine et de littérature, est-ce que la lecture n'est pas une sorte d'auscultation, au sens même étymologique du terme ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir cette oreille fine par rapport au texte que le médecin devrait avoir par rapport au corps ?
Il est vrai que la médecine d'il y a un demi-siècle utilisait le stéthoscope plus qu'on ne le fait aujourd'hui.
Il est vrai que c'est peut-être l'œil aujourd'hui qui a remplacé l'oreille, ou qui a pris davantage de part.
Oui, le graphique.
Oui, oui.
Le graphique est devenu dominant. La médecine plus ancienne, et d'ailleurs la radiographie thoracique ou les vues directes des bronches, alors que la médecine plus ancienne était plus médiate d'une certaine façon et utilisait des signes, ou prélevait des signes écoutables. Mmh. L'oreille intervenait.
Nous étions auparavant sans doute dans un univers à la fois plus tactile et plus auditif, et il est devenu davantage visuel.
Je crois que c'est exactement le cas. Et un texte, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est un vocabulaire, c'est l'enchaînement des idées, mais rien ne me paraît à négliger dans la syntaxe en tant que juxtaposition et enchaînement ou non-enchaînement des éléments du discours. Que ce soit la grande période qui veut enchaîner, que ce soit la parataxe ou la segmentation qui fragmente, c'est avec l'oreille que cela se perçoit, avec l'œil aussi sur la page, et j'y suis constamment, j'en suis préoccupé.
Et alors, est-ce que l'enchaînement de la syntaxe, par exemple, ce serait le rétablissement de l'unité d'un corps aussi ?
Parfois, mais il y a des expériences qui imposent la parataxe, l'instant qui suit l'instant sans être l'imprévu, sans être sa conséquence, le jaillissement de, parfois angoissant, de sensations ou de pensées sans lien logique. Il y a tout un irrationnel du juxtaposé qui fait partie de nos existences, que nous essayons de surmonter et qui revient parfois dans la littérature.
Oui, mais alors on pourrait lire comme vous le faites, vous auriez pu vous contenter de donner les cours que vous avez donnés, dont beaucoup se souviennent, mais vous auriez pu aussi ne pas écrire. Alors ça, c'est une autre opération. Il y a dans l'écriture comme une sorte de commandement intime, comme un ordre qu'on se donne à soi-même et qui est au fond très mystérieux. Et vous avez parlé à propos d'autres écrivains d'une valeur intériorisée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qu'on pourrait nommer de plus fort qu'eux, qui les pousse à prendre la plume et à faire un livre. Quelle est dans votre cas cette valeur intériorisée, si vous pouvez le dire? Je pourrais commencer par répondre en proposant le savoir, mais quelque chose me dit que ce n'est pas suffisant, qu'il y a autre chose que la transmission du savoir dans l'écriture de vos livres.
Je me souviens que une de mes premières tentations d'écriture, à une époque où je lisais des écrivains comme des psychologues comme Jung, dont je ne suis pas le disciple, mais qui a écrit de beaux textes, À une époque où je lisais des textes classiques, et les plus classiques entre les classiques, le sixième chant de l'Énéide, ou la rencontre des morts par Ulysse. J'avais été tenté, mais par une de ces idées de globalisation qui sont finalement irréalisables, de mettre en perspective, mais c'était démentiel, les catabases, les descentes aux enfers. Ce qui m'avait impressionné, c'était la grande voix cantant Énée aux enfers à la vue du spectacle des supplices des malfaiteurs, le discite justitiam moniti, apprenez la justice, vous qui êtes maintenant avertis. Et l'un de mes premiers projets était le projet de grouper et confronter les parcours souterrains.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de décrire là tout simplement une sorte de mise en scène de ce qu'est la lecture ?
Oui, parce que la lecture, si l'on choisit bien ces ouvrages, c'est le parcours où l'on en arrive peut-être au bout du compte à une espèce de jugement ou d'avertissement sur ce qu'il est juste de respecter.
Et puis aussi parce qu'on est à la lisière du monde des morts.
Oui.
Il y a là de proprement une scène. Seulement, je reviens et j'insiste un peu, mais de la lecture, comment passe-t-on à l'écriture ? Est-ce que c'est de l'autre côté du miroir ?
De cette lecture, bien sûr, il faut tirer son propre profit, mais à un certain moment, essayer de le communiquer. C'est le moment où la conviction intervient que cela vaut pour moi et donc cela vaut pour l'autre. Cela vaut comme expérience à transmettre. Et je crois que c'est une règle que l'écrivain, ou disons l'essayiste, nous y reviendrons peut-être, doit garder à l'esprit. Il y a quelque chose qui a son prix, qui a sa valeur, qui a été rencontré dans une aventure personnelle, qui est peut-être un débat du moment, un débat inspiré par les voix du moment, les querelles du moment. Mais à partir du moment où l'on a recueilli dans une lecture attentive quelque chose qui est comme la voix qu'Énée perçoit dans les enfers, il faut la répercuter, il faut qu'elle soit, que nous en prenions la charge, que nous la tâchions de la traduire aussi,
oui.
Car il n'est pas sûr que nous puissions la transmettre comme nous l'avons écoutée.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le fait d'écrire sa lecture, si je peux employer cette formule, l'exigence de quelque chose de plus précis que la parole ? Est-ce qu'il n'y a pas un gain dans l'écriture ? Est-ce que ça peut vous animer ou non ?
L'écriture permet la correction. La parole, la langue me fourche. Nous faisons cette expérience en parlant, en échangeant nos idées. Un mot peut venir à la place d'un autre de façon tout à fait révélatrice. Vient le moment où il faut opter pour un meilleur mot ou pour le mot qui va un peu plus loin ou qui circonscrit mieux. Et l'écriture, pour moi, a toujours été une tâche sévère. L'occasion d'une sévérité envers mes, non pas mes intuitions, mais la première manière dont je l'ai formulée.
Oui. Voilà. Oui. Mais alors, j'imagine aussi qu'il y a un bonheur d'écriture. Parce que vous parlez en effet, d'une certaine exigence, d'une sévérité qui se sent dans vos livres et qu'on admire, mais il y a aussi des pages qui laissent comme une trace du bonheur que vous avez eu à les écrire.
Cela m'arrive, en effet, d'éprouver une exaltation à la découverte, oui, et d'être porté par cette exaltation. Les choses se présentent de façon si convaincante pour moi, leur lien, leur rapport, leur éclairage réciproque me paraît si illuminant, et j'en ai eu un tel bonheur que il faut que je le transmette. Et je tâche de passer par la page pour le transmettre.
Oui, mais alors, est-ce que il vous est arrivé aussi de trouver en écrivant ?
Oui, bien sûr. Il y a des rencontres inattendues.
Et est-ce que ça n'est pas là que réside le bonheur de l'écriture ?
Oui, mais j'ai toujours le souci que tout soit dit. Et le bonheur vient quand le mot inattendu ou la phrase complémentaire élargissent à sa juste dimension ce que je pressentais.
Oui.
À ce moment, l'écriture est heureuse parce que le terme juste a été trouvé, mais pas seulement le terme juste, l'amplitude, le champ, le cadre, l'ouverture.
Alors, quant aux sujets que vous avez abordés, ils sont extrêmement variés, il suffit de se reporter à votre bibliographie, mais il me semble qu'on pourrait tout regrouper sous le genre de l'essai. Or, Montaigne a donné ses lettres de noblesse aux mots et au genre. D'un autre côté, quand on entend essai aujourd'hui, c'est souvent dans une acception plus étroite, enfin plus limitée, et même parfois universitaire. Ça n'est pas votre cas. Et est-ce qu'on pourrait alors essayer de non pas de définir, mais de préciser un peu ce qu'est ce genre au contour mal défini, plus flou encore que le roman ou la poésie. Il me semble que ce sont deux mots qui évoquent quelque chose d'un peu plus précis. Et j'ai été frappé par le fait que lorsque, je crois en Italie, vous aviez reçu un prix un jour et vous aviez parlé de l'essai, et vous avez dit à ce moment-là que vous seriez légèrement blessé, vous prendriez même comme un reproche le fait qu'on vous traite d'essayiste. Cependant, vous écrivez des essais. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ?
On a attaché à cette dénomination essayiste un sens un peu péjoratif, en ce sens que l'essayiste serait quelqu'un qui est livré à son humeur et qui livre des jugements d'humeur, qui d'autre part n'est pas retenu par des scrupules de connaissances exhaustives et complètes de ce dont il parle.
Je comprends.
Quelquefois, ce sont des philologues scrupuleux et qui n'ont jamais écrit que des notes philologiques qui expriment leur mépris pour l'essayiste. Mais dans ce cas-là, je prends volontiers la défense de l'essayiste si les philologues s'enferment uniquement dans leurs observations sur les textes. J'ai un immense respect pour la philologie et je crois qu'il faut en passer par là et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Il m'est arrivé de faire des éditions critiques et d'examiner des corrections d'écrivains. L'analyse de la jeunesse des textes est aujourd'hui une version nouvelle de la philologie, mais que connaissaient tous les érudits qui établissaient les textes de l'Antiquité en confrontant les différents manuscrits. C'est un merveilleux exercice de la critique, car il faut opérer un choix. La critique, c'est une crisis, c'est un choix. Georges Blin parlait de la cribleuse de blé, mais la crisis, c'est la lame qui tranche. L'essai, remontons encore une fois peut-être à une étymologie, c'est l'exagium, mot qui a donné le mot essaim, et je ne sais pas si ce mot essaim doit être entendu dans l'essai, mais c'est un mot qui est utilisé également pour la pesée. Et l'essai doit être une pesée de quelque chose d'un objet qu'il faut déterminer, d'une sur un débat ou sur sur un problème qu'il faut circonscrire. Et ce que j'apprécie dans l'essai, c'est que pour commencer, il faut en définir le sujet, savoir de quoi l'on parle, qu'est-ce qui est en cause, quel est l'enjeu du débat. Et la pesée doit d'abord avoir choisi son domaine. On peut écrire des essais sur des choses indifférentes, et ce sera un billet plaisant. Mais lorsque la question importe et qu'elle alarme, qu'il y a un enjeu pathétique, tragique, important, alors l'essai lui-même devient une aventure et un péril, un risque. Le travail de l'essayiste est chargé d'accomplir quelque chose.
Vous parlez de péril et de risque, et je me souviens à ce propos que vous avez dit aussi que l'essai est le genre le plus libre qui soit. Alors, quelle est cette liberté ? C'est ce péril dont vous parliez à l'instant ?
Paradoxalement, on pourrait déclarer que le péril et la liberté vont de pair.
Oui, c'est ce qu'il me semblait.
Vont de pair, et bien sûr, Montaigne prend ses arguments sur une mouche, donc même ce qui paraît futile peut être un point de départ. Il ne faut pas nécessairement s'orienter vers ce que j'appelais un peu emphatiquement le pathétique d'un problème ou d'une situation. Quelquefois, le biais par lequel l'on commence un essai peut être imprévu, inattendu, cocasse même. Et puis, tout à coup, les choses se développent. Non, je crois que la liberté de l'essai tient à l'encadrement qu'on lui donne, l'amplitude que reçoit le travail de l'essayiste, le point où il s'arrêtera aussi.
Oui, mais alors vous parlez de l'essayiste, et il a une présence dans l'essai. Parce que nous faisons là en ce moment, enfin comme si il y avait une sorte de d'auteur transparent qui pèse et sous-pèse, mais qui n'est pas là lui-même, qui ne s'engagerait pas. Or, vous avez dit aussi que pour satisfaire pleinement la loi de l'essai, et là je vous cite, il faut que l'essayeur s'essaie lui-même. C'est une formule qui ne va pas de soi. Il faut que l'essayeur s'essaie lui-même.
Je la maintiens tout à fait, radicalement. Oui. Je suis tout à fait d'avis qu'il faut commencer par là et ne pas disserter, ne pas faire un exercice dans lequel on ne fait que déployer un certain talent d'exposer. L'essayeur doit s'essayer lui-même, mais à propos de quelque chose qui lui importe plus que lui-même. Ah. Bien sûr, chez Montaigne, c'est le moi qui importait, au péril, au risque de se voir reprocher une attention trop, disons ce mot moderne, narcissique à lui-même. Personnellement,
ce qui me semble pas le cas chez Montaigne.
Montaigne parle de lui comme d'un ensemble d'opinions qui peuvent varier. Il y a chez Montaigne cette remise en question qui fait que ce moi qui échappe perpétuellement ne se donne pas pour lui-même en spectacle.
C'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a au contraire dans le narcissisme quelque chose d'immobile et de figé.
Oui.
Et Montaigne, comme vous l'avez dit, est en mouvement, et même dans un mouvement perpétuel, qui est dans une inquiétude au sens vrai du terme.
Et finalement, en parlant dans le dernier essai de l'expérience de un peu tous les aspects de la vie, y compris la vie quotidienne, la vie matérielle, les aliments, c'est quelque chose qui concerne tous les hommes, tous les individus qu'il présente à son propos. Alors là, le narcissisme me paraît se développer d'ailleurs considérablement dans notre situation, lorsque le terme du cheminement de l'essayiste n'est finalement que sa mise en évidence personnelle de son tourment ou de sa névrose intéressante.
Mais alors à ce moment-là, est-ce que vous estimez que, au contraire, l'essayiste devrait verser dans la fiction ?
Plutôt verser dans la fiction, car alors il se détacherait de lui-même, il créerait des personnages, il se détacherait des circonstances dont il était le captif, et il courrait d'autres périls qui est de donner vie à un univers de fiction.
Mais à propos de la fiction, il y a une phrase qui m'a intrigué dans les relectures que je viens de faire, et c'est à propos de Denis de Rougemont. Vous dites qu'il a gardé les yeux ouverts sur le tragique de l'époque, et vous ajoutez « d'autres, avec ses dons littéraires, auraient cherché refuge dans la fiction ». C'est évidemment le mot « refuge » qui m'a alerté, comme s'il y avait une sorte de facilité ou de lâcheté ou d'abandon la fiction par rapport à l'essai qui serait plus responsable.
Oui. Oui, le mot « responsable » comptait beaucoup pour Rougemont, et la formule « libre et responsable » est une formule, un couple de mots qu'il emploie souvent. Et ce qu'il... il a été un des premiers témoins de l'usage du mot « engagement ». C'était l'existentialisme chrétien, et ce mot d'engagement, il croyait qu'il lui appartenait à lui. Il était un peu dépité de le voir utilisé ensuite par Sartre et attribué au seul Sartre, Denis de Rougemont, encore jeune, avant la guerre de 39, utilisait le mot engagement parce que c'était la justification de ses écrits, de ses journaux. Donc là, l'essai est impérieux, impératif, et s'impose comme engagement.
Est-ce que vous pensez, vous,
que... Et le roman aurait été probablement moins engagé, mais c'est que Rougemont y songeait au roman. Il avait des projets de roman qu'il a laissés en suspens, et faisant cet éloge de Rougemont devant Rougemont, je le consolais en quelque sorte de ne s'être pas fait romancier.
Mais vous, est-ce que vous avez eu cette tentation ?
Par moment, j'ai été trop tenté, et j'ai procédé à une autocritique, par des fictions allégoriques. Mais l'allégorie est un danger. Quand c'est Melville qui la pratique, c'est magnifique, il faut s'y engager. Il mobilise un monde dans ses allégories. Dans les petits petits modèles de fiction que j'ai pu imaginer, il y avait une allégorie trop lisible. Un jeune couple au bord du désert découvre une source, crée une petite cité, etc., à l'écart des autres, et puis cette petite cité n'arrive pas à assurer le bonheur attendu. Vous voyez, c'était...
Mais on retrouve le 18e en vous, là.
Oui.
Et l'utopie.
Je n'ai jamais réalisé cette image de l'utopie manquée, le bonheur éphémère de quelques journées ou de quelques mois, après quoi tout se gâte, tout ce qui avait été la source à l'écart du monde n'est plus la source à l'écart du monde.
Alors je comprends mieux que vous parliez de refuge à propos de fiction.
Oui. La fiction aurait, en somme, donné du sens dans une figure allégorique à quelque chose qui, malgré tout, dans notre monde, se transforme, nous inquiète, ne nous permet pas de symboliser une fois pour toutes notre situation.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Gérard Massé avec Jean Starobinski en 1999. À voix nue, réalisation Bruno Sourcy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.